doit être ce que nous pouvons saisir sur la structure de la personne, en essayant de comprendre par les diverses activités de la personne ce que ces diverses activités nous permettent de comprendre ce qu'est la personne, en nous rappelant toujours, hein, et ça je crois que c'est très important, qu'au plan métaphysique, ayant découvert les principes propres de ce qui est en tant qu'être, l'être le plus parfait que nous expérimentons, c'est la personne humaine, c'est le lieu où, de fait, nous pouvons expérimenter l'existant le plus parfait. Donc, en cherchant ce qu'est la personne humaine, nous ne cherchons pas un principe nouveau dans l'ordre de l'être. Je crois que c'est ça qu'il faut bien préciser, que c'est une manière d'exister. La personne humaine se présente comme une manière d'exister, et non pas comme un principe nouveau dans l'ordre de l'être. Et c'est là où on peut comprendre comment l'anthropologie, si elle n'est pas enveloppée d'une métaphysique, ne nous fait pas découvrir pleinement et totalement ce qu'est la personne humaine. Parce qu'au fond, c'est toujours la très grosse difficulté pour nous. N'oublions pas que le premier qui nous a donné une anthropologie, c'est Kant. Et il l'a fait en opposition vis-à-vis d'une métaphysique, presque. Puisque la métaphysique ne peut pas exister, on se rabat sur une anthropologie. Et c'est toujours un tout petit peu la tentation. On va remplacer la métaphysique par une anthropologie. Alors, nous devons au contraire comprendre qu'une anthropologie ne peut être parfaitement elle-même. Alors, une anthropologie, c'est savoir ce qu'est la personne humaine, en définitive, ce qu'est l'homme. Employer le terme du pape, ce qu'est l'homme. Et l'homme, dans ce qu'il a plus lui-même, une personne. Et savoir ce que c'est que la personne humaine. Est-ce que la personne humaine est un nouveau principe au niveau de l'être, ou est-ce que la personne humaine, c'est le pose de l'être, c'est le comment de l'être, c'est la manière dont l'être se présente à nous, de la manière la plus profonde, la plus parfaite. Nous ne pouvons le saisir qu'en regardant les diverses activités de la personne humaine. C'est pour ça que la personne humaine représente le nœud de toute la philosophie. C'est à partir de la personne humaine que nous pourrons découvrir l'existence de Dieu. Je crois que c'est comme ça que nous devons reposer le problème aujourd'hui. Mais avant la découverte de l'existence de Dieu au point de vue philosophie première, au point de vue métaphysique, il faut d'abord nouer toute la métaphysique autour de la personne. C'est pour ça qu'en recherchant ce qu'est le comment de la personne humaine, nous reprenons toutes les parties de la philosophie. Première partie de la philosophie, ce que nous avions fait la dernière fois, en nous posant la question, est-ce que l'activité artistique nous dit quelque chose sur la structure de la personne humaine. C'est une question très importante et difficile. Il ne faut pas vouloir répondre trop vite. C'est très, très difficile et très important. Est-ce que le facere, dans toute sa dimension, en prenant le facere au niveau artisanal, le facere au niveau proprement poétique, au niveau de l'art, est-ce que le facere nous permet de nous donner une première structure de la personne, c'est-à-dire de cette manière d'exister? Alors, je vous avais dit qu'au niveau psychologique, nous pouvons parler de la personnalité de l'artiste. C'est même, je crois, ce qui manifeste le mieux la personnalité humaine. L'artiste a ce privilège d'être celui qui sait se montrer, se manifester de la manière la plus loyale et la plus vraie. Autrement dit, entre l'activité artistique et le point de vue psychologique, il y a des liens très forts. La psychologie ne va pas aussi loin que l'activité artistique. L'activité artistique ne peut pas être réduite à la psychologie. Autrement dit, il y a dans l'activité artistique quelque chose que le psychologue ne saisira jamais. Il y a dans l'activité artistique quelque chose qui va plus loin que le point de vue psychologique. Mais c'est cependant là où la psychologie est la plus proche. On essaiera de voir ça dans la session philosophique, hein, parce que je crois ça très important. On est envahi du psychologisme aujourd'hui, hein, et on veut tout ramener à la psychologie. Alors, il faut regarder sur quoi repose cette psychologie. Et je crois que la psychologie, au fond, va reposer avant tout sur l'activité artistique, parce que c'est l'activité qui se manifeste le plus. C'est l'activité que nous voyons le mieux, si vous voulez, parmi les personnes ou les personnages que nous pouvons rencontrer. L'artiste est toujours un personnage, surtout les grands artistes, hein. Ils sont toujours des personnages, ça nous impressionne toujours. C'est très impressionnant de voir la personnalité d'un artiste. Donc au niveau psychologique, il faut bien reconnaître que c'est là où nous reconnaissons le mieux ce que représente la personnalité au niveau psychologique. Vous voyez, alors vous retrouveriez là ce que nous avions vu au point de vue psychologique, ce que Charles Audier nous dit au point de vue psychologique, le moi, le sentiment du moi dans la personne, c'est le point de vue de l'autonomie, le point de vue de la valorisation et le point de vue de la sécurité. Un artiste, un véritable artiste, c'est toujours celui qui a un sens très aigu de son autonomie. Il ne faut pas le chatouiller de ce côté-là. Parce que si vous chatouillez un artiste du côté de son autonomie, ça va très mal. Il faut au contraire montrer que c'est vrai, il a une autonomie souvent beaucoup plus manifestée que chez n'importe quel autre homme. Ça ne veut pas dire que c'est chez lui que l'autonomie est la plus grande. Parce qu'au fond, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas chez l'artiste où l'autonomie est la plus grande. Mais il est chatouilleux là-dessus. Le loup et le chien, hein. Alors, ne dites pas que l'artiste, c'est le chien de la fontaine, hein, de la fable de la fontaine. Ce serait terrible, ça. Il est toujours un peu celui qui veut avoir son autonomie. Les coups des franches, sens très très fort. Son autonomie, il a un sens de sa valeur. Autrement, il ne peut plus rien produire. Dès qu'un artiste a subi certains échecs prolongés, pas un seul, hein, mais prolongés, alors à ce moment-là, il perd le sens de sa valeur. Et il a besoin d'être valorisé. Valorisé par ses œuvres. Alors, quand ses œuvres ne sont pas reçues, c'est toujours une chose très difficile. Alors, il pourra toujours dire dans 10 ans, moi je suis prophète, dans 15 ans, on me reconnaîtra. N'est-ce pas ? C'est une espérance qui demeure. Et tous les autres sont des imbéciles qui ne comprennent rien du tout. N'est-ce pas ? Ils sont en retard. Je suis prophète. C'est vrai que l'artiste est toujours un peu prophète. Et donc il annonce. Un grand artiste n'est jamais de son temps. Ça, c'est une réponse adéquate qu'on doit donner aux gens qui veulent être de notre temps. Un grand artiste n'est jamais de son temps, parce qu'il est toujours un peu prophète. Donc il est devant les autres. Et parce qu'il est devant les autres, il n'est pas de son temps. C'est les moutons de Panurge qui sont de leur temps. C'est juste l'inverse de l'artiste. Et alors, c'est ça le sens de sa valorisation, c'est grâce à ses œuvres. Et puis, il a le sens de la sécurité, il a besoin d'une certaine sécurité. Parce que s'il n'a pas cette sécurité, c'est plus suffisant. Et cette sécurité, il la trouve dans son activité elle-même. Alors, on retrouve, si vous voulez, dans l'artiste, ce que les psychologues diraient d'un sentiment du moi fort. Mais au niveau métaphysique, nous devons dire, si nous étudions bien ce que représente l'activité artistique, que nous ne pouvons pas dire que la personne humaine est structurée par l'activité artistique. Je sais que c'est très difficile à soutenir dans le monde d'aujourd'hui. Hein. On est tellement pris par le point de vue artistique qu'on a beaucoup de peine de dire ça. Après Nietzsche, c'est pas commun, parce que Nietzsche voudrait justement que l'homme, le surhomme, ce soit dans la créativité. C'est la créativité qui fait le surhomme. Il faut montrer qu'au niveau philosophie première, au niveau métaphysique, que l'activité artistique, si noble qu'elle soit, si grande qu'elle soit, si valorisante qu'elle soit, l'activité artistique ne structure pas la personne au niveau de l'être, donc au niveau métaphysique. Je crois que ça, c'est capital, vous voyez, parce que si on ne voit pas ça, on ne comprend pas la nécessité du dépassement de l'activité artistique. L'activité artistique ne structure pas au niveau proprement métaphysique parce que l'activité artistique ne nous fait pas découvrir notre finalité humaine. Et que c'est en découvrant sa finalité propre que la personne peut être personne. L'esprit n'est lui-même que tant il découvre sa finalité. Tant que l'esprit ne découvre pas sa finalité, il n'est pas l'esprit. Il est de l'ordre de la disposition. C'est très grand la disposition, c'est l'humus, hein, c'est ce qui permet un dépassement. Mais je crois qu'il faut dire que l'activité artistique, si noble qu'elle soit, si grande qu'elle soit, reste de l'ordre de la disposition. Donc elle ne nous donne pas la structure de la personne humaine. Au plan métaphysique, hein, je dis bien au plan métaphysique. C'est-à-dire qu'au fond, l'artiste ne connaît pas de dépassement par rapport à lui-même. On voit bien, comme Malraux dit, l'œuvre d'art est un antidestin. Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus grand de dire ça. Et c'est assez vrai. L'œuvre d'art est un antidestin. Mais un antidestin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a dans l'homme quelque chose qui lui permet de dépasser la loi de la nécessité. L'artiste n'est pas entièrement conditionné. L'artiste sent qu'il doit dépasser le conditionnement habituel. Antidestin. Il y a des gens qui sont tellement conditionnés qu'ils ne peuvent pas sentir le dépassement du conditionnement. Alors, ils sont entièrement de leur temps. Quand je vous disais tout à l'heure, l'artiste n'est pas entièrement de son temps. Oui, c'est très vrai. Il porte un drapeau, il indique quelque chose, il montre une émergence, mais il n'atteint pas encore la finalité propre de l'esprit. Parce que l'œuvre d'art, si elle permet à l'artiste de se prolonger dans une matière qui n'est pas lui, et donc l'œuvre d'art, si elle implique une certaine transcendance par rapport à l'homme. C'est une transcendance qui vient de la matière. C'est pas une transcendance de l'esprit. C'est ça quand on dit l'activité artistique est spirituelle. C'est très vrai, elle est spirituelle, l'activité artistique. Mais c'est un spirituel qui ne peut émerger que de la matière. C'est un spirituel qui est toujours lié au sensible. Oui, la réaction de Nietzsche est très significative là-dessus, parce que Nietzsche comprend très bien ce que c'est que la créativité. Et quand Nietzsche dit que la métaphysique c'est un mensonge, pourquoi? Parce que la métaphysique montre l'être au-delà de la matière, au-delà du sensible, pour lui c'est le plus grand scandale. Parce que c'est dans le sensible que l'homme doit trouver l'absolu. Le jugement esthétique au sens fort représente l'absolu pour Nietzsche. Et ce jugement esthétique est toujours lié au sensible. Donc vous pouvez trouver dans le point de vue artistique quelque chose de spirituel, mais c'est un spirituel humain. C'est-à-dire un spirituel toujours lié au sensible. Et qui ne peut pas dépasser le sensible. Vous pouvez découvrir dans l'œuvre d'art une certaine transcendance, mais cette transcendance provient d'une immanence de la matière et ne dépasse pas l'immanence de la matière. L'œuvre d'art doit être incarnée, c'est impossible autrement. Vous voyez, ce n'est pas une incarnation qui est comme le mystère de l'incarnation, où la matière subsiste dans le Verbe de Dieu, et donc la nature humaine subsiste dans le Verbe de Dieu. C'est une incarnation d'une idée de l'homme, et non pas d'une réalité subsistante qui assume la matière. C'est une incarnation qui demande de se réaliser dans le sensible et qui n'assume pas le sensible. Elle le transforme, ça c'est sûr. Le sensible artistique est un sensible spirituel. Donc ce n'est pas n'importe quel sensible. C'est une spiritualisation de la matière. Mais ce n'est pas une assomption de la matière. Ça, ce serait très intéressant de bien comprendre au point de vue théologique, hein, la différence entre... Parce qu'on emploie toujours le mot incarnation à toutes les sources, hein, aujourd'hui. Alors, en employant le mot incarnation au niveau propre, artistique, oubliant le mystère de l'incarnation, on arrive au bout d'un certain temps à immerger tellement le Verbe de Dieu dans la nature humaine qu'on ne voit plus que la nature humaine. Oui. L'erreur moderne, c'est ça. C'est de comprendre le mystère de l'incarnation avec l'analogie artistique. Et non pas faire l'inverse. Le mot incarnation a pris de plus en plus une expression, un sens, à partir du mystère de l'incarnation. Aristote ne parle pas d'incarnation. C'est évident. Ça, c'est dans une culture chrétienne qu'on parle de l'incarnation. Et ce mot incarnation provient donc du mystère d'incarnation. Il a voulu expliquer le mystère de l'art, du moins il a voulu expliquer le problème de l'art et la grandeur de l'art. Alors on dit c'est une incarnation d'une idée. Vous voyez, faites bien cette petite analogie, hein, cette petite analogie en voyant le verbe qui assume la nature humaine, et puis l'idée, l'idée d'artiste. Hein. L'idée de l'artiste qui vient d'inspiration, qui assume la matière et qui s'incarne dans la matière. Mais l'idéal est porté par la matière, tandis qu'au contraire, le verbe porte la nature humaine. Ce n'est pas du tout la même chose, parce que le verbe subsiste en lui-même et peut assumer la nature humaine. Et donc il transcende toujours d'une transcendance divine qui fait que le Verbe de Dieu n'est pas diminué par la nature humaine. Tandis qu'au contraire, l'idéa est portée par la matière. Elle ne peut pas subsister en dehors de la matière. Elle subsiste dans la matière. Alors, on comprend très bien cette analogie. Elle est très belle. Et c'est normal qu'on l'emploie, je dirais, dans une culture chrétienne, qu'on parle d'incarnation de l'idéa. Mais il faut comprendre que l'incarnation est totalement différente. Allô, allô, hein, l'analogie. Totalement différente. Au bout d'un certain temps, on oublie la différence et on prend la similitude. Et après, à partir du moment où on ne voit plus cette analogie de la diversité, qu'est-ce qu'on fait? On comprend le mystère de l'incarnation à partir de l'incarnation artistique. Et à ce moment-là, on ne voit plus la transcendance, on ne voit plus l'immanence. Vous voyez, c'est, je crois, important parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les théologiens, n'ayant plus assez de foi, du moins certains théologiens, n'ayant plus assez de foi dans le mystère de l'incarnation, reprennent le sens de l'incarnation à partir de l'œuvre artistique. Et alors, à partir de l'œuvre artistique, l'idée, elle est dans la matière, elle est portée par la matière, elle dépasse la matière, c'est bien évident. c'est la forme qui va dépasser la matière, mais elle reste immergée dans la matière. Elle essaie de sortir de la matière, c'est là où elle est spirituelle. C'est là qu'il y a du spirituel dans l'art. Mais le spirituel de l'art n'est pas un spirituel qui transcende. Ce n'est pas un spirituel qui peut se tenir par lui-même. C'est un spirituel qui est à l'intérieur même du sensible et qui ne peut pas sortir du sensible. Je crois ça très important pour comprendre ce que Nietzsche nous dit. Parce que c'est quelqu'un qui a saisi très fort et profondément ce que c'est que le point de vue de la création artistique, mais qui, de fait, ne voit pas que le véritable transcendant de l'esprit est au-delà de la matière. Alors, ceci nous aide à comprendre comment l'artiste, avec son œuvre, demeure lié à la matière et donc ne peut que nous faire comprendre la disposition de la personne humaine sans nous donner la structure propre de la personne humaine. Parce que ça reste du côté de la disposition. La parole de saint Thomas qui est si forte quand il dit « La disposition se prend toujours de la matière, ex parte materiae. » Toute disposition. La finalité ne se prend pas de la matière, puisque c'est la cause des causes. Et la matière se fait comprendre à partir de la finalité. Et je ne peux pas rejoindre la finalité par la disposition. Impossible. Il y a quelque chose de nouveau qui nous permet de comprendre que la personne humaine ne peut pas être structurée par l'activité artistique. L'activité artistique dispose, c'est l'humus. Je crois que c'est ce qui dispose le mieux. Parmi les dispositions, c'est la disposition la plus parfaite. Un artiste, normalement, s'il est un artiste, il suffit de peu de choses pour qu'il découvre ce qu'est la personne humaine. C'est pour ça que l'art est plus proche de la philosophie que la science. Parce qu'on pourrait se poser la question, à côté de l'activité artistique, est-ce que l'activité scientifique va nous donner une personne humaine ? Eh bien, l'activité artistique, l'activité scientifique ne nous donne pas non plus une personnalité humaine. Parce que maintenant, il est mort, on peut le dire. Quelqu'un comme Monod, je connaissais de très grands amis de Monod. Mais j'étais toujours très frappé de voir comment Monod était tellement peu une personne humaine. Il était grand savant, merveilleux dans sa science, mais dès qu'il était en dehors du domaine scientifique, fragilité extraordinaire. Et ça arrive, ça, on voit ça chez les artistes, ils sont merveilleux dans leur art, mais dès qu'on a affaire à une personne, fragilité extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reposent pas, ils n'ont pas découvert la finalité. Et donc, ils s'appuient sur leur œuvre, c'est déjà mieux que s'appuyer sur les idées, ou de s'appuyer sur des conclusions scientifiques. L'œuvre artistique est un support plus grand que les conclusions scientifiques. Les conclusions scientifiques demeurent dans l'intentionnalité. Et donc, si on s'appuie sur les conclusions scientifiques, ça ne... Il n'y a aucun appui. Si on s'appuie sur l'œuvre anti-destin, c'est déjà mieux. C'est pour ça que je crois, parmi les dispositions qui conduisent à la personne humaine, l'activité artistique de l'artiste qui réalise quelque chose, en tant qu'il est artiste, qu'il fait quelque chose, c'est la disposition ultime. C'est la disposition la plus parfaite. Mais ce n'est pas encore la structure de la personne humaine. Il faut essayer de comprendre maintenant comment, par l'amour d'amitié, nous allons découvrir le premier moment de la structure de la personne humaine. Oui. Autrement dit, si vous voulez, parce qu'il s'agit philosophiquement de préciser ce qu'est la personne humaine au point de vue profond, donc sa structure, ses dimensions. Quelles sont les dimensions de la personne humaine ? Puisqu'il s'agit non pas de principe, mais il s'agit d'une manière d'exister. Alors je dirais ceci, encore une fois, c'est très difficile, je suis obligé d'aller vite, je vous ai déjà dit ça la dernière fois, on est obligé d'aller vite, Et donc, s'il y a des questions, il faut les poser. Hein. Il n'y en a pas eu de poser, donc ça prouve que vous avez tout compris. N'est-ce pas? Posez-les par écrit. Vous aviez le temps de les poser depuis la semaine dernière. Alors, j'aimerais que vous puissiez les poser par écrit, parce que c'est important. C'est très important. Ce sont des questions devant lesquelles on se trouvera tout le temps. C'est important pour nous, et c'est important pour le monde dans lequel on se trouve. De savoir si vraiment on peut dire que l'activité artistique poussée jusqu'au bout comme activité artistique ne structure pas la personne humaine. Elle est de l'ordre de la disposition. Il s'agit pas de dire ça à plein nez devant un artiste, hein, parce que ça vous lui faites de la peine. Mais il ne faut surtout pas dire ça. Il faut comprendre, cet artiste est suffisamment grand pour qu'il ait compris les limites de son art. Et alors là, à ce moment-là, il a compris que c'était de l'ordre de la disposition et qu'il y avait autre chose pour découvrir l'esprit. Que l'esprit, dans toute sa force, ne se découvre pas à partir de l'œuvre d'art. L'esprit dans toute sa force, hein, c'est-à-dire en tant qu'il transcende, on découvre l'esprit incarné, l'esprit dans la matière, dans le sensible. C'est quelque chose de très grand, c'est magnifique, c'est là où il se manifeste le plus. Mais ce n'est pas encore l'esprit. Donc, comprenons activité artistique. Je prends toute activité artistique, l'activité artistique la plus poétique, si vous voulez. Toutes les activités artistiques, mais je prends poétique dans le sens où ça touche quelque chose d'une inspiration profonde. Et puis, l'activité scientifique. Ces deux activités restent de l'ordre de la disposition. Donc, elles ne nous font pas entrer dans la structure de la personne humaine. Elle reste dans l'ordre de la disposition. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, hein, écrivez-le sur un petit papier, et puis nous discuterons ça la prochaine. Parce que je crois que c'est très important. Pour moi, c'est une chose capitale au point de vue philosophique. Nous nous plaçons dans une lumière de philosophie première. Hein. Bien le comprendre. En dehors de la philosophie première, je ne peux pas le dire. Et là, on voit l'importance d'une anthropologie qui est dépassée par une métaphysique pour arriver à découvrir une véritable anthropologie. Parce qu'autrement, je reste dans une anthropologie psychologique ou sociologique. Et donc, ce n'est pas une anthropologie qui, vraiment, va jusqu'au bout des exigences de ce que c'est que la personne humaine. Alors, troisième position, vous voyez, l'activité de la mondanité. Alors, je dis que c'est à ce moment-là où l'esprit se découvre dans sa propre finalité. Nous avons vu précédemment comment toute l'éthique devait être reprise à travers l'expérience de l'amour d'amitié. Et comment, après Nietzsche, qui tire à boulet rouge contre Kant, n'oublions pas, à ce point de vue-là, il nous sert beaucoup, il faut se servir de Nietzsche contre Kant, mais il faut en même temps pas être à la remorque de Nietzsche. Alors, c'est intéressant de voir qu'après Nietzsche, on ne peut redonner le sens de la responsabilité qu'à partir de l'amour d'amitié. Puisque c'est à partir de l'amour d'amitié, je prends exprès amour d'amitié, je prends pour bien préciser qu'il s'agit d'un amour, mais d'un amour spirituel, c'est-à-dire d'un amour qui rejoint la personne de l'autre, qui rejoint l'autre, qui rejoint l'ami, qui rejoint l'homme en tant qu'ami. C'est à partir de cette expérience de l'amour d'amitié vécue pleinement que nous découvrons comment il y a en nous quelque chose qui dépasse le point de vue du sensible, qui assume le sensible, mais qui le dépasse, qui dépasse l'aspect passionnel et qui découvre l'autre dans son autonomie, l'ami. J'aime l'ami pour lui-même. Tant que je demeure dans un amour passionnel, j'aime l'ami pour moi. Et donc à ce moment-là, l'amour d'amitié ne me fait absolument pas découvrir quelque chose de transcendant. C'est lorsque je suis capable d'aimer l'autre pour lui-même, c'est-à-dire de m'ordonner vers lui d'une façon telle que je suis tout entier relatif à lui et que je le considère comme mon bien, celui qui peut seul achever, perfectionner, finaliser ce que je suis. L'ami est capable de me finaliser, c'est-à-dire de donner un sens nouveau à ma vie. C'est lorsque je découvre l'ami vraiment comme ami, et donc comme une personne capable d'être mon bien, qu'à ce moment-là, je découvre qu'il y a en moi une force spirituelle, puisque seul l'esprit permet d'aimer l'autre pour lui. Et c'est en ce sens-là qu'il y a le dépassement. Et c'est en ce sens-là qu'on découvre l'esprit au-delà de la matière. Se dépasser, c'est se découvrir comme étant capable de dépasser le point de vue sensible et le point de vue matériel. C'est ce dépassement premier. Je ne dis pas que c'est le seul, je dis que c'est le premier dépassement. C'est un premier dépassement qui me semble très important à noter, puisque justement il est premier. Il fait découvrir quelque chose qui me transcende, quelque chose qui me dépasse, mon bien personnel. Je découvre l'ami capable justement de m'attirer, capable de me faire sortir de moi-même. Cette expérience de l'amour d'amitié, j'aime l'autre pour lui-même et je peux l'aimer pleinement dans la mesure où je sais qu'il m'aime. Alors à ce moment-là, il y a comme une espèce de liberté profonde dans l'exercice même de mon amour. Parce que je ne peux aimer pleinement l'autre que dans la mesure où je sais qu'il m'aime. Autrement, je suis à sa poursuite. Je le désire, mais je ne peux pas dire que je l'aime pleinement. C'est cette chose très très mystérieuse que savoir que l'autre m'aime, je peux mettre toute ma confiance en lui. Et quand je mets toute ma confiance en lui, mon amour peut s'exercer pleinement. Mais je n'aime pas l'autre parce qu'il m'aime. Parce que ce ne serait plus l'amour d'amitié. Je l'aime parce qu'il est mon bien. Parce qu'il existe comme celui qui est capable de me faire me dépasser. Tandis que si je l'aime parce qu'il m'aime, je demeure dans une immanence intentionnelle. Ça, c'est un point de vue très très important à comprendre. Pourquoi des quantités d'amour disparaissent, c'est à cause de ça. Parce que si j'aime l'autre uniquement parce qu'il m'aime, dès que j'aurai l'impression qu'il m'aime moins, je l'aimerai moins. Alors ça va à la catastrophe. Alors que ça doit être juste l'inverse. J'ai l'impression qu'il m'aime moins, je dois l'aimer plus. Oui, c'est la réponse qu'on doit donner. Parce que s'il m'aime moins, ça prouve qu'il y a des difficultés, c'est que je ne suis pas assez aimable, alors il m'aime moins. Alors à ce moment-là, si je réponds en l'aimant moins, ensemble nous dégringolons, nous descendons. Tandis qu'au contraire, si je l'aime pour lui-même, et c'est ça la très grosse difficulté, hein, l'amour d'amitié, ça met du temps. Ça met du temps vraiment à être vécu. C'est à la fois très spontané en nous, parce que je crois que le jaillissement de l'amour, c'est le cas de plus spontané en nous, plus spontané que l'inspiration artistique. L'inspiration artistique, ça met du temps aussi à venir, c'est bien évident, mais c'est moins spontané que l'amour d'amitié. L'amour d'amitié trouve en nous ce qu'il y a de plus radical, notre appétit naturel à aimer le bien. Mais cet appétit naturel à aimer le bien demande de se développer, et ça met du temps. avant que cet amour d'amitié soit parfaitement explicité. Et pour qu'il soit parfaitement explicité, il faut un terrain particulier. Et ce terrain particulier, c'est l'amour que l'autre a pour moi, qui permet alors ce développement. Mais le motif propre de mon amour d'amitié, c'est d'aimer vraiment l'autre pour lui-même, et non pas parce qu'il m'aime. Vous voyez, c'est très curieux, que ça peut être un obstacle terrible. C'est la condition sine qua non qui remplace la finalité à ce moment-là. La condition sine qua non pour que l'exercice de l'amour d'amitié puisse se faire parfaitement, il faut que l'autre m'aime. Ça, c'est la condition sine qua non. Pour que mon amour soit libre, il faut que j'aie confiance. Hein. Tant que je n'ai pas compris que l'autre ne m'aimait pas, je n'avais pas confiance, je tournais autour. Hein. Alors j'avais besoin de gens intermédiaires. Est-ce que tu penses qu'il m'aime, ou est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il juge de moi? Alors vous êtes autour de moi, et vous êtes beaucoup plus préoccupé de savoir ce que l'autre pense que d'aimer. Alors à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus préoccupé de savoir ce que l'autre pense que d'aimer, vous ralentissez votre amour, votre capital d'amour ne peut pas être entièrement donné. Donc la condition sine qua non pour que l'amour d'amitié puisse vraiment s'épanouir, puisse vraiment exister, la condition sine qua non, c'est de savoir que l'autre m'aime. Mais cette condition sine qua non n'est pas un principe, n'est pas la finalité. La finalité, c'est d'aimer l'autre comme bien. C'est d'aimer la personne humaine en elle-même. Alors à ce moment-là, il y a le dépassement de la condition sine qua non, parce que le jour où on transforme la condition sine qua non en principe, c'est ce que fait Kant, à ce moment-là, c'est fini la finalité. Et là, on a de nouveau le ronron du chat auprès du feu. On est heureux l'un et l'autre parce qu'on s'aime. C'est merveilleux. Ça ne dure pas longtemps, le temps que la bûche soit brûlée, n'est-ce pas ? Et puis après, ça dégringole, parce qu'on n'a pas atteint la personne humaine. Et on reste dans l'intentionnalité. C'est le ronron. Et là, on a transformé la finalité. On a transformé la finalité par le point de vue de la condition sine qua non. Et donc, on a transformé la réalité par l'intentionnalité. C'est le vécu et non pas le bien qu'on a. Et je souligne ça parce que c'est quand même très important de se demander pourquoi il y a une telle corruption d'amour qui au point de départ sont vrais. Comment ça se fait-il que ça se corrompt? Ça se corrompt parce que justement l'amour demande le réalisme de l'amour. L'amour qui n'atteint pas la personne est un amour qui se replie. Il se replie sur le vécu de l'amour. Donc sur l'intentionnalité de l'amour. Et quand il se replie sur l'intentionnalité de l'amour, il ne peut plus être parfaitement amour. Et à ce moment-là, il se gâte. C'est ce qu'il y a de plus fragile, l'amour. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce qu'il y a de plus fort et ce qu'il y a de plus fragile. Et donc, s'il ne peut pas respirer pleinement en atteignant l'autre comme le bien transcendant, l'amour est extatique, hein. Fameuse phrase de saint Thomas qui revient tout le temps à la suite de Denis, l'amour est extatique. Eh bien, quand vous empêchez l'amour d'être extatique, vous le repliez sur lui-même. Et alors à ce moment-là, ce n'est plus le bien que vous atteignez, ce n'est plus la personne de l'autre que vous atteignez, mais vous vous repliez sur une intentionnalité. Ah, il ne m'aime plus. Mais aimez-le et soyez suffisamment fort dans votre amour pour l'aimer malgré la brume du matin, malgré cette manière dont on voit que ça ne va plus. Alors à ce moment-là, l'amour n'est plus conquérant. Un amour extatique est toujours conquérant, et il est conquérant parce qu'il s'appuie sur le bien de l'autre, et non pas sur le point de vue du fait qu'il m'aime. C'est très important que de savoir qu'il m'aime, c'est une condition sine qua non, mais ce n'est pas ça qui finalise. Et là, je crois qu'on saisit bien, au point de vue philosophique, la différence entre la condition sine qua non et le principe. Le bien, il est fin. Et le bien joue le rôle de causalité finale. Et quand j'atteins le bien, En l'aimant, je suis finalisé. Et je suis finalisé par une personne. Donc je suis finalisé par l'autre qui a quelque chose qui me dépasse. Puisque il est justement une personne capable de susciter en moi un amour. La première finalité que l'homme découvre, c'est dans la vie. C'est la première finalité. Et c'est pour ça que je crois qu'on peut dire, alors ça c'est un point très important à souligner, la première dimension de la personne humaine, donc la première dimension, je dis bien, pas la dimension ultime, c'est la première dimension qui structure la personne humaine, c'est d'avoir atteint sa propre fin. C'est la première, c'est pas la seule, hein, encore une fois. Surtout pas définir la personne humaine par l'amour d'amitié. Ce serait très faux. Mais c'est le premier élément, c'est la première dimension. C'est qu'on découvre la première fin, première expérience que je fais de la fin. C'est de découvrir la personne humaine comme mon ami. Alors, qu'est-ce que ça permet de préciser, hein, au point de vue philosophique? Quand j'ai découvert que dans l'amour d'amitié, je découvre vraiment ma fin première, ma fin propre, immédiate, la plus proche. Je découvre donc que la personne humaine implique cette finalité, ce que les psychologues ne peuvent pas dire, ne peuvent pas parler de ça. Ils peuvent parler des sentiments du moi, mais ils ne peuvent pas parler de la finalité. Je découvre là l'esprit, puisque seul l'esprit est capable de transcender l'individu. Seul l'esprit est capable de dépasser l'individu. Et donc de découvrir quelque chose qui est proprement spirituel, mais au sens beaucoup plus que spirituel de l'artiste, parce que je touche un absolu. Je touche quelque chose vers lequel je suis entièrement relatif. Vous voyez, la personne, l'ami, n'est pas seulement anti-destin, il est ma fin, il est mon bien. Il est ce qui donne la signification première à ma vie. Aimer l'autre. Et l'aimer comme celui qui donne le sens à ma vie. Donc, c'est ici, dans cette première dimension, que je découvre l'esprit lié à une fin spirituelle. Et c'est pour ça que je peux dire tout de suite que la personne humaine demande qu'elle soit dépassée. Elle ne peut se découvrir que dans un dépassement. S'il n'y a pas ce dépassement, il n'y a pas au sens fort de personne. Une personne ne peut pas se définir dans la pure immanence. Parce que dans la pure immanence, je reste dans l'intentionnalité. Là, je découvre quelque chose de substantiel. C'est la première dimension, c'est l'esprit que je découvre. Et en découvrant ça, je découvre que moi-même, je dois être le bien de l'autre. Puisque l'ami m'aime, je suis son bien. C'est la double découverte qu'on fait. En découvrant que l'autre me finalise et que je sais qu'il m'aime, je dois donc le finaliser. Et donc je ne dois pas le décevoir. Je dois le finaliser. Alors, découvrant que je suis son bien, je découvre qu'il y a en moi quelque chose de substantiel. L'esprit est enraciné dans quelque chose de substantiel en moi, puisque je suis le bien de l'autre. Je découvre donc deux aspects qui me semblent capitaux dans la première découverte de la personne, première dimension de la personne, de découvrir à la fois cet ordre vers l'autre, et que cet ordre vers l'autre me conduit à découvrir en moi ce qu'il y a de substantiel. La personne humaine se structure donc dans la finalité et dans l'autonomie de la substance. Et les deux choses sont simultanées. Mais vous voyez que c'est par la transcendance que je découvre l'immanence, et non pas l'inverse. C'est en découvrant ma capacité de dépassement que je découvre qu'il y a en moi quelque chose qui est parfaitement autonome, puisque je suis le bien de l'autre. C'est en ce sens-là que l'ami me révèle à moi-même mon autonomie. Je ne découvre pas mon autonomie en moi-même, je la découvre grâce à l'ami. Je découvre donc les deux dimensions premières de la personne humaine, l'aspect de la substance. Je suis le bien de l'autre. Et le bien implique quelque chose de substantiel, puisque c'est un bien personnel. Attirer l'autre, il y a en moi une autonomie fondamentale, l'autonomie de la substance. Et il y a en moi cette capacité de dépassement, l'esprit. Je viens, vous voyez, je trouve là le lien premier entre l'esprit et la nature. Mais je ne regarde pas la nature comme nature, je la regarde comme substance. Et ça, c'est très important. Au niveau de l'être, la substance, c'est ce qu'il y a de premier, et le point de vue de l'amour est ce qu'il y a de plus radical dans le dépassement de moi-même. Voilà les deux premières dimensions. Je crois que c'est les deux dimensions premières. Alors, la troisième dimension, on la verra la fois prochaine, la troisième dimension, ce sera la recherche de la vérité. Une amitié doit toujours s'acquérir. Je ne peux pas m'arrêter. Et c'est ça qui est important à découvrir. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas dire, maintenant je suis une substance, ça va. Je suis aimé par quelqu'un, j'aime quelqu'un, c'est fini.